baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour Baroque et classique, la France au XVIIe. Émission toujours en compagnie de Philippe Frétinier. Nous allons aujourd'hui avoir une émission un peu en deux parties, ou du moins la première partie de cette émission va être consacrée à une petite conclusion autour de l'importance de la littérature quant à la question qui nous intéresse, à savoir le baroque et le classique. Est-ce que ce sont des définitions pertinentes? Et puis nous commencerons aujourd'hui aussi à traiter de l'architecture, bien sûr, qui est, d'après vous, Philippe Frétinier, sans doute la discipline, le domaine dans lequel il est le plus évident que la distinction, justement, baroque et classique n'est pas opérationnelle. Mais revenons un instant déjà sur la question de la littérature, parce que vous nous avez permis d'explorer de manière très très précise le domaine de la littérature, parce que notamment, pour vous, c'est là que les choses sont les plus importantes, que les choses se passent. Oui. D'abord et avant tout, à la condition de considérer que la littérature a été influencée par une vision du monde, notamment des sciences. Mais ça, on en avait parlé encore avant. Donc je vous...
Oui, justement, la littérature est d'autant plus importante que c'est elle qui fait circuler ce qui se passe dans des domaines comme par exemple les sciences, et notamment les mathématiques, qui ne sont pas forcément accessibles à tout un chacun, mais qui vont faire circuler l'état d'esprit nouveau qui est induit par ces nouvelles avancées. Ça, c'est la première chose. Puis de manière générale, ça ne concerne pas que l'époque baroque, en tout cas c'est mon sentiment, la littérature, c'est ce qui parle le mieux du réel, d'une certaine façon. Et donc, dans la littérature, on touche vraiment le réel d'une époque et son imaginaire, parce que en plus, le vecteur lui-même fait appel à l'imaginaire, ne serait-ce qu'à celui du lecteur, pour pouvoir plonger dans l'œuvre qu'il a entre les mains. Et en même temps, il contribue à la diffusion de l'imaginaire d'une époque. C'est-à-dire que c'est à la fois le réel et l'imaginaire. Et il n'y a que la littérature qui offre ça. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, bien sûr, à condition qu'on considère que quand vous dites réel, il ne s'agit pas de la réalité des faits, mais de quelque chose qui structure un peu, là aussi on en revient à votre structuralisme, je pense.
Oui.
Quelque chose qui structure la pensée de tout un chacun, et d'ailleurs probablement pas seulement des lettrés qui lisent, qui sont relativement peu nombreux à cette époque, au XVIIe, mais cette pensée diffuse dans toute la population, voilà. Très probablement. Par le biais des histoires qu'on raconte, voilà. Bien entendu, et c'est la littérature qui les porte. C'est là, c'est en ce sens, je suppose, que vous dites que c'est
absolument.
Très réel, c'est un effet très réel. Quoi.
Voilà. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, j'ai entre autres parlé de Tesoro un moment, et du mentir vrai, enfin voilà.
Absolument.
Donc, bon, ça c'est vraiment donc une chose très importante. Puisqu'aujourd'hui, je vais, notamment à travers l'architecture, expliquer que terme en tout cas baroque, on reviendra sur classique, parce que la problématique est un tout petit peu différente, étant donné qu'il a été revendiqué à l'époque. Mais le terme baroque, qui est donc lié à l'historiographie moderne, je rappelle les ouvrages, de, par exemple, de Wolfin.
Oui, c'est un terme qui émerge au XIXe siècle.
Voilà, à la fin du XIXe, le livre d'Eugénio d'Ors au courant XXe siècle. Mais c'est vraiment des notions historiographiques récentes. Donc déjà, à l'époque, le mot baroque n'existe pas. Et... en plus, en architecture, il est vraiment, je dirais, impertinent. Donc, enfin, on va le voir quand on va rentrer un petit peu dans le détail des choses. La littérature, en plus, est d'autant plus le vecteur de cet imaginaire, c'est celui qui circule le plus facilement. Il n'y a rien de plus facile que de faire circuler des livres. Et on l'a bien vu, quand on a parlé de littérature, l'influence de la littérature italienne, de la littérature espagnole, qui, justement, transporte, véhicule tous les thèmes que les sciences ont défrichés. J'ai parlé du décentrement du monde, en parlant notamment de la trajectoire elliptique des orbites par Kepler.
Je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est assez amusant. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les livres se diffusent. On oublie toujours que le livre a d'abord été vendu par correspondance. Donc, on parle de vente en ligne ou de VPC pour le livre. C'est consubstantiel à l'existence même du livre qui était vendu à partir des imprimeries par correspondance dans l'Europe entière à partir de toutes les imprimeries.
Voilà. Et donc, la science, je l'ai déjà dit aussi, parce qu'il faut bien comprendre ça, elle se forme tout au long du XVIIe siècle. Elle est chaotante pendant une bonne partie du XVIIe, parce qu'il n'y a pas une méthode scientifique absolument sûre d'élaborer. Ça va apparaître à la fin du XVIIe. Il faut savoir que, par exemple, Galilée réfute la théorie des ellipses de Kepler. Il ne veut pas en entendre parler, parce que pour lui, la sphère, c'est vraiment la quintessence même de la représentation de la beauté, de la pureté de Dieu.
Du parfait.
Et donc voilà la perfection divine, et donc l'ellipse est un problème. Et donc vous voyez bien donc que dans l'attitude de Galilée, quelque part, il y a quelque chose de non scientifique, entre guillemets, sur ce point précis.
C'est curieux pour quelqu'un qui a procédé à une révolution de réfuter
mais c'est pour
un
ça
progrès qui finalement ne fait que continuer son
travail. Voilà, il faut bien dire que la révolution scientifique qui s'enclenche au début du XVIIe n'est pas une révolution qui met tout de suite en place les structures de la pensée scientifique telles que nous pouvons la penser.
Mais bien sûr, c'est le 18e qui fera ça.
Donc voilà, ça, c'est vraiment la fin 17e avec Newton, et puis surtout le 18e, et puis avec secondé en philosophie par ce qu'on appelle, non pas la philosophie des Lumières, qui est une invraisemblable expression française pleine de catéchisme du 19e siècle, mais surtout la Aufklärung. Ça, c'est quelque chose de particulièrement allemand et non pas français. Donc il faut mettre les choses à leur place, avec notamment la figure tutélaire d'Emmanuel Kant. Enfin, on va pas partir sur l'histoire de la philosophie.
Non, ça c'est le 18e siècle, on fera ça dans une prochaine série.
J'ai aussi dit que l'une des révolutions, et ça c'est dès Galilée par contre, c'est que la grande chose, la grande affaire, c'est la mathématisation du monde. Et on va retrouver ça en architecture, je le mentionne pour l'instant, je vais y revenir tout à l'heure. Donc vraiment, il y a une cohérence finalement dans les courants qui traversent l'époque. Alors pour ce qui concerne la littérature, puisque je viens de mettre en cause le terme baroque, que je mets d'ailleurs toujours en cause, je l'ai employé par commodité pour la littérature. Pourquoi l'ai-je employé ? Pourquoi ai-je cédé à cette facilité ? C'est évidemment que ça me permettait, du point de vue chronologique, de situer un moment bien précis, parce que ça va aussi avoir une incidence sur l'architecture, puisque j'ai parlé en gros de la période 1560-1630.
Oui, c'était une manière chronologique de distinguer des œuvres et non pas une description intrinsèque.
Hein. Non, voilà. Oui. Je ne parle pas d'une typologie, mais plutôt d'un moment et d'un moment qui en plus vraiment un moment européen. Je crois l'avoir bien expliqué, puisque justement il y a d'abord cette importance de la littérature italienne et de la littérature espagnole, et que ce sont les centres. Alors l'Italie, c'est un peu compliqué parce que ce sont plutôt des principautés, que finalement dans cette partie-là de l'histoire, le point central de la puissance, de la culture, parce que ça va toujours ensemble, c'est l'Espagne, et d'une certaine manière l'Italie, de façon plus fragmentaire, puisque on n'a pas affaire à
un État, mais un ensemble d'États. Oui.
D'ailleurs, c'est évidemment pour beaucoup d'art, c'est en Italie que tout va se passer. Donc déjà avec la Renaissance. Alors il faut aussi là préciser les choses. Parce qu'on dit toujours la redécouverte des textes anciens, de l'Antiquité. Il faut nuancer. C'est une redécouverte par les philologues, par les érudits. Ça, c'est la nouveauté. Bon, tout le monde connaît le nom de Guillaume Budet, peut-être moins ce qu'il a fait, mais d'un certain nombre de philologues et d'érudits qui, grâce à l'invention de l'imprimerie, ont accès aux textes qui n'étaient pas disponibles de façon aisée jusqu'à ce moment-là, puisque...
Oui, parce que c'était des copies.
C'est des copies et ça se passe en général dans les monastères, et c'est aux mains des clercs. Parce qu'en fait, les textes de l'Antiquité, on commence quand même déjà à les redécouvrir, notamment lors de la Renaissance carolingienne, celle du IXe siècle, Je rappelle qu'il y a Charlemagne met sur pied ce qu'il appelle une académie palatine avec sa chapelle, avec Alcuin, où chacun prend le rôle d'une figure de l'Antiquité, donc il n'est pas si ignorant que ça. Il y a un renouveau au XIIe siècle, dont d'ailleurs les écoles de Chartres vont être un des relais, où on continue à découvrir des textes d'Aristote, de Platon. Alors tout ça est parcellaire, mais quand même, donc ça vient plutôt par le courant de l'Espagne, à l'Andalous, mais aussi par Byzance, qui a été un vrai conservatoire des textes anciens, et donc aussi des textes architecturaux, c'est pour ça que je fais ce détour. Bon, les choses se passent mal entre les Vénitiens et les Byzantins à l'aube du XIIIe siècle, donc il y a la quatrième croisade qui est mise sur pied par le doge de Venise, qui ne peut pas payer les croisés, et qui en gros prétexte de différend avec Byzance en disant « écoutez, vous faites un détour par Byzance, vous vous payez sur la bête, et puis après vous faites la croisade ». Et en fait, c'est ce qui va se passer, il va y avoir une mise à sac de Byzance par les croisés, donc la quatrième croisade, si je me trompe pas, tout début du XIIIe siècle, et évidemment, en pillant nombre d'œuvres d'art qui vont se retrouver à Venise, dont les fameux chevaux de Saint-Marc, Napoléon pillera après, mais ils sont revenus entre-temps, depuis sont revenus sur place, puisque les quatre chevaux sur l'arc de triomphe du carrousel à Paris sont des copies. Et donc, on trouve aussi les textes. Mais ça reste dans un cadre relativement confidentiel. Et là, cette impression de renaissance et de découverte des textes de l'Antiquité est due au fait à la circulation de l'imprimerie et au fait que ce seront des laïcs qui s'en emparent. C'est ça, surtout, la grande nouveauté.
Oui, il ne s'agit pas vraiment d'une découverte, donc, mais simplement d'une diffusion permise par un outil technique différent qui est l'imprimerie qui peut dupliquer à l'infini.
Parce que cette circulation, encore une fois, elle a eu lieu au 9e siècle, au 12e siècle, par deux canaux différents, comme je viens de le dire. Et donc, voilà. Et au milieu de tous ces textes, il y en a un qui va nous intéresser pour notre sujet d'aujourd'hui, l'architecture. Il y a les textes de Vitruve, qui est vraiment le premier traité d'architecture, qui va être vraiment la Bible et la pierre angulaire de la théorisation de l'architecture à la Renaissance.
Alors, on va peut-être juste écouter un peu de Purcell, puisqu'on va entrer là maintenant dans le domaine de l'architecture. Donc, ça va nous permettre de faire un point provisoire sur la littérature et d'entamer l'architecture. Donc un peu de Purcell chanté par Alfred Deller, grande, grande voix.
Thank you.
Alors, Philippe Rétinier, nous allons aborder maintenant un domaine particulièrement important. Alors, certainement que pour nos auditeurs, avec le domaine de la musique, c'est celui qu'on associe le plus facilement à la question baroque. Pourtant, l'architecture donc. Pourtant, pour vous, c'est aussi le lieu, la discipline dans laquelle on voit à quel point cette distinction baroque et classique vous paraît complètement inopérante.
Ah oui, mais je ne suis pas le seul. Des historiens de l'architecture plus éminents que moi, dont je vais donner les noms, comme ça, ceux qui voudront approfondir pourront s'y reporter, comme Claude Mignot ou par exemple Alexandre Gady, ne disent pas autre chose. Alors évidemment, Claude Mignot, parfois, emploie le terme baroque, comme moi je l'ai fait pour la littérature, par commodité.
Par convention, en quelque sorte.
Par convention, mais on sait bien que ça n'est pas du tout satisfaisant. Et on peut pas dire qu'il y a eu du baroque dans l'architecture, et même en Italie, puisque en fait, en Italie, il y a plutôt deux courants, dès la fin du XVIe siècle, début XVIIe, c'est-à-dire le courant Michel-Ange, fin XVIe siècle, début XVIIe, on met en cause Michel-Ange de façon indirecte, Michel-Ange à cause du maniérisme, c'est-à-dire qu'un développement, une grande liberté, la maniera pour Vasari, qui est le premier à employer le terme, ça par contre c'est un terme de l'époque, hein, parce que Vasari est une sorte de premier historien de l'art, en même temps qu'un peintre. Il écrit notamment la vie des plus illustres peintres, donc il y a aussi Bellori, ça c'est un tout petit peu après. La manière, c'est se détacher du réel, c'est prendre des libertés avec le réel.
Oui, hein. C'est s'écarter de la représentation linéaire, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, c'est ça.
Faire autre chose.
Donc, et d'ailleurs, en utilisant justement la représentation circulaire, les articulations étant comme les sphères, on est du côté de chez Galilée, hein.
Oui.
Donc voilà. Et donc c'est un peu vu comme un dévoiement à la fin du XVIe et au début du XVIIe. Mais on n'ose pas mettre Michel-Ange en cause parce que c'est quand même une grande référence. Donc on va plutôt le mettre en cause à travers ses élèves. Et on va plutôt donc dire que bah oui, Michel-Ange c'était un classique, ce qui est vrai aussi. Je vais revenir après en expliquant le pourquoi. Et puis il y a le courant Borromini, alors qui lui est le courant débridé, plein d'ornementation, de développement. On va même traiter. Je recherche l'auteur qui. Ben, je crois que c'est Bellori, justement, qui traite Borromini, qui aurait appris son métier sur le chantier de la cathédrale de Milan, qu'un chantier qui a duré assez longtemps, qui est l'un des rares édifices gothiques en Italie, parce qu'il faut préciser que si le gothique, d'abord, c'est vraiment une invention française, hein, ça s'est même appelé opus Franciscanum, hein, donc, et ça a eu assez peu de succès en Italie. Il n'y a pas beaucoup de grands édifices gothiques en Italie. Il y a la cathédrale de Milan, il y a Orvieto, il y a la cathédrale de Sienne. Et puis une fois qu'on les a cités, on a cité à peu près tous les édifices majeurs. On trouvera d'autres édifices, mais en gros,
parmi les plus importants, en tout cas,
voilà. Bon.
Seul,
et donc, il se trouve que Borromini a appris son métier à la fin du chantier de la cathédrale de Milan, et donc on va le traiter de gothico ignoranzo, c'est-à-dire de gothique ignorant. Hein.
Donc, ça voulait dire ignorant du classique, ignorant de l'histoire romaine.
Ben, oui, ignorant, ignorant des fondements de l'architecture. Et donc, pour comprendre ce dont il est question, parce que ça va conditionner, on n'est pas loin du sujet, ça va vraiment conditionner l'architecture française, il faut remonter au début, c'est-à-dire aux deux grands inventeurs de l'architecture de la Renaissance en Italie, Palladio, Bramante, qui eux se tournent vraiment vers l'architecture antique, notamment à travers le traité de Vitruve, les livres d'architecture de Vitruve. Et donc, on redécouvre le système des ordres, dont j'ai déjà fait mention, je crois, qui est un système de proportions, d'ornement, dont le point de référence sont des colonnes. Donc il y a les trois ordres antiques majeurs qui sont considérés par les tenants du retour à l'antiquité comme les sources même de l'architecture, l'ordre dorique, l'ordre ionique, l'ordre corinthien, auxquels s'ajouteront après l'ordre corinthien et l'ordre composite, pardon, et l'ordre toscan. Alors le toscan, c'est un ordre qui ressemble un peu à l'ordre dorique, mais il n'y a pas de triglyphes et de métopes sur l'architrave, et la colonne est un peu plus courte. Et il y a un rapport entre le diamètre de la colonne et sa hauteur. C'est donc un système, c'est un canon. Hein, voilà, c'est un canon. Et ça, c'est évidemment un phénomène majeur parce que l'époque gothique, notamment en France, mais un peu dans toute l'Europe, puisque le gothique a vraiment, à l'exception de l'Italie où c'est plus compliqué, comme je viens de dire, l'époque gothique s'est vraiment étendue sur tout le continent européen, abandonne les références à l'Antiquité, en tout cas dans la fonction structurante des édifices. Hein. À l'époque romane, on trouve encore des références, il y a des pilastres, je pense par exemple à Paray-le-Monial ou à la cathédrale d'Autun, et vous avez des pilastres dans la nef qui viennent tout droit de l'Antiquité, mais au XIIIe siècle, on passe dans un autre système, qui est celui de la voûte sur croisée d'ogives, donc avec les nervures qui retombent sur les piliers, les colonnes engagées qui répercutent les poussées jusqu'au sol, et donc on abandonne la colonne antique.
Hein. Oui.
Donc du XIIIe à la fin du XVe siècle, en gros, on n'utilise plus les ordres, ils sont pratiquement perdus. Et c'est dans le cadre de la relecture, hein, je préfère dire relecture que redécouverte, que la relecture justement renaissante de l'Antiquité, qu'on va redécouvrir les ordres antiques, qu'on va associer donc l'ordre dorique à la force, donc le côté plutôt masculin, l'ordre ionique gracieux plutôt à la femme, le côté féminin. Et ça, c'est vraiment l'apport de Palladio et de Bramante. Alors Bramante, donc Palladio, je précise pour que les gens situent. Je vais parler évidemment de beaucoup d'édifices alors qu'on est à la radio, il faudrait avoir des photos, mais si les gens sont intéressés,
on peut les trouver facilement.
Voilà, sur Internet, on peut trouver très facilement les édifices que je vais mentionner. Donc Palladio a essentiellement exercé sa carrière en Vénétie avec Vicence, la ville de Vicence comme centre où il y a beaucoup d'édifices de Palladio, plus toutes les villas d'été vénitiennes, donc les riches marchands aristocrates vénitiens avaient des villas d'été, d'ailleurs qui jouent un rôle dans le théâtre de Goldoni par la suite d'ailleurs,
oui,
dans la plaine Vénète. Il y avait donc des maisons d'été, et donc beaucoup de ces demeures vont être construites par Palladio, reprenant justement le système des ordres et des proportions de l'Antiquité. Alors, bon, un exemple célèbre, c'est la Villa Rotonda, qu'il n'a pas pu terminer, c'est donc son élève et disciple Scamozzi qui va d'ailleurs écrire aussi un traité. Palladio lui-même va laisser un traité sur les ordres. Bramante, c'est, pour que les gens se représentent, c'est le premier architecte de Saint-Pierre de Rome qui, à ce moment-là, est conçu... Alors, c'est un plan centré, ça, c'est une nouveauté de la Renaissance. Donc, un plan centré, ça implique forcément une coupole. Et donc, c'est lui qui démarre le chantier de Saint-Pierre de Rome. Il ne peut pas le terminer parce qu'il meurt entre-temps. Et donc, celui qui va prendre la suite, c'est Michel-Ange, à qui on doit le tambour, donc évidemment très important, plus la coupole. Hein. Il y a même une maquette en bois qui existe de l'époque de Michel-Ange pour présenter aux clients ce que ça va donner. Alors, le plan centré, ça fait appel à la circularité et donc à la perfection et quelque chose d'un peu finalement, là aussi on est en plein dans l'humanisme parce que beaucoup de ces gens-là sont des humanistes, hein. Donc c'est la perfection divine. Et donc beaucoup des églises de la Renaissance vont être sur plan centré, c'est-à-dire que il y a un carré au centre surmonté d'une coupole avec des chapelles sur chaque côté du carré, mais c'est une petite croix dont chacun des bras est égal.
Oui, oui.
Alors que la croix latine, ça va être le symbole de la croix. Et ça va être le symbole adopté au XVIIe, même si on pourrait, je reviendrai par exemple dans l'exemple de la chapelle de la Sorbonne par le Mercier, voir qu'il y a un mélange de plans centrés et de croix latine dans certains édifices.
Mais néanmoins, une cathédrale comme celle de Chartres est bien sur le modèle de la croix latine.
Oui, oui, mais ça, c'est jusqu'à la Renaissance.
Oui, c'est juste pour que les gens se représentent effectivement que la croix latine, c'est une croix qui a bien évidemment
le bras inférieur le plus long, voilà, hein, donc qui représente vraiment la croix du Christ. Hein. on est dans ce moment très particulier où on revient aux fondamentaux de l'architecture antique.
Par réaction, donc, en quelque sorte, à ce que vous avez appelé tout à l'heure le maniérisme.
Non, ça, le maniérisme, ça va venir après.
Ça va venir après, pardon. Oui. Non, c'est pas le maniérisme, excusez-moi.
Je suis revenu au point de départ.
Je me trompais par réaction à des, oui, à des créateurs moment, comme Borromini.
Au moment où tout démarre, et notamment à Rome, c'est-à-dire c'est le 16e siècle, c'est-à-dire la Renaissance. Mais vous allez voir dans la suite des développements que je vais faire pourquoi il faut partir de là pour comprendre l'architecture française.
D'accord.
Donc le premier mouvement, c'est vraiment un mouvement classique, hein, au sens que on retourne à la source antique. Hein. Et donc j'ai déjà expliqué que les classiques, bon, classe au début ça définit une catégorie d'individus, hein, mais c'est passé dans le langage comme étant les études des auteurs classiques, ceux de l'Antiquité. Et donc c'est vraiment le point de départ. Et donc il y a toute une période assez sobre, assez pure, qu'à l'époque de Palladio et du Bramante. Et petit à petit, au fil du XVIe siècle, et ça va être la même chose en France d'ailleurs, il va y avoir un développement de l'ornementation qui va petit à petit envahir, presque submerger les formes architecturales. Et c'est ça qu'on pourrait appeler le maniérisme, c'est-à-dire ça, c'est la fin du XVIe siècle. Hein. On le voit très bien en France avec Philibert Delorme, Androuet du Cerceau, qui a par exemple fait alors ça c'est facile à trouver sur internet aussi, je pense, un projet de château qui n'a jamais vraiment été terminé, qui est le château de Charleval, où il y a vraiment une profusion de décors qui submerge quasiment l'architecture. Et aussi bien en Italie qu'en France, il va y avoir une réaction à cela.
Oui, c'est des choses qu'on retrouve dans le langage courant encore aujourd'hui, hein. Faire des manières ou être maniéré, c'est trop en faire en quelque sorte.
Voilà.
On
va reprocher à l'architecture d'en faire trop.
En effet. Nous allons nous quitter avec à nouveau un morceau de Purcell, à nouveau avec la voix d'Alfred Deller, puisque ça nous fait très très plaisir, évidemment. Et on se retrouvera la prochaine fois pour continuer donc notre discussion sur l'architecture et approfondir le sujet.